Donc le titre que j'ai donné, c'est Garde le beau dépôt. C'est juste une portion de ce passage justement dans 2 Timothée 1, 12 à 14. Garde le beau dépôt. La plupart des traductions parlent de bon dépôt. Mais dans la version, je crois que c'est la version du bon. La Bible du Semeur, voilà. La Bible du Semeur parle de beau dépôt. Donc, on va lire ce passage dans 2 Timothée 1, 12 à 14. Voilà pourquoi j'endure ces souffrances. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadée qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié. Donc, juste avant de commencer, j'avais une petite réflexion. Je crois que tout, on a de l'argent en banque. C'est très très rare maintenant de, voilà, qu'on ait quelqu'un qui dit je garde tous mes sous chez moi. Il y en a, ça existe. Ça existe des gens qui n'ont pas confiance à la banque, donc qui vont garder leurs sous dans une caisse chez eux. Mais en général, toutes, on a forcément un compte, deux comptes, trois comptes. On garde nos sous au chaud. On a confiance dans les banquiers. On a confiance qu'ils sont là pour veiller à ce que rien n'arrive, que personne vienne voler cet argent. Donc, en pensant à cette expression, garde le bon dépôt, garde le beau dépôt. Je pensais justement à ça. Il y a même des gens qui ont de grands biens, des propriétés, pas seulement de l'argent, et qui vont prendre un administrateur pour le gérer. Et l'administrateur a tous les droits pour gérer de la meilleure manière pour faire fructifier ses biens, ses propriétés-là. Je pense que ce test, c'est pas que je pense, mais voilà, le test est relié à cette pensée-là quand il est parlé de beau dépôt. C'est vraiment un bien qui nous a été confié, un bien qui était confié à Timothée. Et en regardant un peu le contexte, donc quand Paul écrit cette épître, il est en prison à Rome pour la deuxième fois. Il écrit cette lettre de manière très personnelle, très touchante à Timothée, qui est son fils dans la foi. Ils ont une relation très très proche. Paul lui a enseigné beaucoup de choses. Et à l'époque, Timothée était le surveillant, en tout cas le pasteur de l'église d'Éphèse. Et là, Timothée lui envoie ce courrier pour l'encourager, parce que là, on est sous Néron. Un empereur sanguinaire qui est en train de vraiment décimer les chrétiens. Paul sait que son heure va sonner très bientôt et il écrit cette lettre-là pour encourager son fils dans la foi, Timothée, à continuer dans ce qu'il a appris, dans ce qu'il a reçu de lui, dans la vérité tout simplement. Et aussi, la particularité de cette épître, c'est que c'est la toute dernière de Paul. Dans toute la série de lettres qu'il a écrites, ben, c'est la dernière qu'il écrit. Et là, il livre quelque chose de très essentiel pour nous. Paul appelle Timothée à continuer dans la persévérance, à persévérer, à prendre ce qu'il a reçu, à l'entretenir avec grand sérieux. Il lui dit le don de prêcher le mystère de l'évangile. Continue à prêcher ce que tu as reçu. Donc, juste avant de continuer, on va regarder un peu les mots qui sont utilisés. Quand il parle de garder le bon dépôt, donc le mot bon en grec qui veut dire kalos qui donne le sens de beau, précieux, excellent, quelque chose de louable. Le mot confier, le mot un peu complexe, donc je vais éviter de le lire. qui parle de dépôt, mais c'est réellement, littéralement, un dépôt bancaire. C'est les Anglais parlent de trust, ou en français on va dire fiducie. C'est un contrat qui est signé, qui lie deux personnes, donc une personne à qui le bien appartient, qui va le confier à quelqu'un d'autre, un administrateur, un fiduciaire, pour qu'il en prenne soin. Et cet administrateur en général a tous les droits, c'est-à-dire qu'il a vraiment une libre liberté de faire les bons choix, de gérer cela pour que ça puisse fructifier. Ensuite, le mot garder, c'est protéger, préserver, veiller à la sécurité d'eux. Et essentiellement, dans ce passage, Paul veut souligner l'importance de préserver la parole de Dieu, en fait, parce que c'est l'essentiel. C'est vraiment préserver afin qu'elle ne soit pas altérée. Et la Bible du Semeur utilise le mot garder intact, préserver, garder intact. Donc là, Paul est en train de demander à Timothée de garder, de préserver un trésor excellent. C'est un trésor, un vrai, qu'il a reçu, que Dieu lui a confié, un dépôt que Dieu a fait en lui. Il a entre ses mains quelque chose d'une valeur inestimable. Et Paul veut que Timothée réalise cela. Alors, en quoi consiste ce dépôt pour nous? En premier, c'est la parole de Dieu. Il le dit clairement. Là, au chapitre 1, verset 13, il dit, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, tous les enseignements qu'il a reçus, et pas seulement les enseignements, il a observé pendant tout leur voyage missionnaire, alors qu'ils passait les vies, planté plusieurs églises. Timothée, à ses côtés, a appris, et par l'enseignement, mais aussi par sa vie, par sa relation avec tous ces païens, ces gens qui se sont convertis, tout ce qui a été établi, tout ce qui a été fait. Timothée a beaucoup reçu. Et là, il lui est demandé vraiment de veiller là-dessus, de veiller sur la parole qu'il a reçue. En 2 Timothée 2, 1, 2, toi donc, mon fils, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, cette parole-là, c'est le trésor que nous avons. Et on sait aussi, on le sait, c'est pas le thème sur lequel je vais m'attarder, mais on sait que la parole, c'est Jésus-Christ. Dans Apocalypse 19, 3, je crois il est marqué, et son nom, c'est la parole de Dieu. Donc c'est réellement lui, un trésor que nous avons reçu. Et ensuite, en prenant soin de cette parole-là, en préservant cette parole-là, Timothée est exhorté à entretenir le don, l'appel de Dieu, parce que ça va être le moyen pour préserver la parole. On l'enferme pas quelque part dans une boîte. Et la garder, c'est vraiment en marchant dans son don, il va préserver cette parole-là. Donc il exhorte vivement à prendre soin de ce don, de cet appel qu'il a reçu. Et on sait que Timothée a été appelé à être pasteur, enseignant, donc c'est l'appel que lui a reçu en particulier. Il enseigne son assemblée. Et Paul lui demande de prendre soin de cela. En 2 Timothée 1, 6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de ma main. Là, on voit que toute cette recommandation qui est faite à Timothée nous est adressée aussi. On est exactement comme lui. On a reçu les mêmes paroles, les mêmes saines paroles, et on reçoit cette même recommandation de prendre soin du dépôt que Dieu a déposé en nous. Dieu nous a confié sa parole et il y a plusieurs versets, on en a lu déjà beaucoup, mais plusieurs versets vraiment qui soulignent cela. En Proverbe 3, 14 à 15, en effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tout ce que tu pourrais désirer. Psaume 119, 72, Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1 000 objets d'or et d'argent. 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et en Apocalypse 22, 7, voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et en lisant tous ces versets, je réfléchissais à la manière dont nous relions à la parole de Dieu. Nous, on a de la chance, on est vraiment super bien enseignés. On connaît des pans entiers de la Bible. Mais aussi, on est confronté dans l'ère où nous vivons aux voix qui s'élèvent pour discréditer la Bible, pour l'abaisser. Il y a plein de voix autour de nous. Des fois, c'est vraiment de vive voix. Oralement, les gens vont dire, affirmer des choses pour discréditer cette parole. J'ai des cousins qui, sans aucune vergogne, vont dire, oui, Jésus-Christ, il existait, c'était un homme, mais c'est pas le Messie, il n'a aucune autre puissance, il n'est pas plus différent que d'autres prophètes qui ont existé. On va dire, la Bible a été traduite, elle a perdu de son. On n'est pas sûr que le message qu'elle délivre, que c'est vrai, on ne sait pas qui l'a écrit. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la parole de Dieu. Il y en a certains qui essaient de la réécrire. Donc on sait qu'il y a des formes, il y a même des païens qui ont créé des bibles. Je veux dire, je crois qu'il y a un président américain qui a sa version, qui a écrit, réécrit pour que ça lui corresponde à lui, avec ses pensées à lui, ce qu'il pensait. Donc j'ai oublié son nom, mais j'avais lu ça, je me suis dit, waouh, on peut s'amuser à mettre autant d'énergie à réécrire la Bible pour soi. Mais c'est ce qui se passe. On est dans un monde et à l'époque où Paul écrit à Timothée, c'est vraiment, on le voit dans 2 Timothée 3 et 4, l'apostasie qui commence à s'installer, des gens qui commencent à aller contre cette parole-là qui est en train d'être propagée. Et nous, ce que Dieu nous demande justement, on a vraiment ce mandat, de la garder. De la garder, de la préserver. Quand on est au milieu des gens, on a un rôle à jouer et Dieu dit qu'on a reçu cette parole-là, ce dépôt, et qu'on a vraiment une responsabilité incroyable de vraiment la préserver. C'est un rôle, c'est quelque chose que Dieu nous confie. Et comment est-ce qu'on va faire pour la préserver? On n'a aucune puissance. Oui, on a une puissance, on a l'Esprit Saint en nous. Mais par nous-mêmes, on ne peut rien. Et nous, notre rôle, c'est juste en marchant avec conviction, tout simplement, fidèlement avec conviction. On n'a même pas besoin d'aller nous confronter aux gens. En marchant fidèlement avec conviction, cette parole-là va atteindre les gens qui sont autour de nous. Parce que Dieu dit que nous sommes des lumières. Qu'on se taise, même quand on se tait, par notre attitude, par notre vie, tout simplement, on est en train de préserver cette parole-là. Dans 1 Corinthiens 4, 1 à 2, il est écrit: Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. En Philippiens 2, 15, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensible au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Donc, je trouve que voilà, Dieu nous fait confiance et nous sommes ses représentants pour garder comme des gardiens de la vérité, quoi. Ensuite, Dieu nous a confié des talents. Et Jésus a pris le temps de nous raconter deux paraboles pour qu'on puisse comprendre qu'il y a un enjeu, qu'il y a un trésor qui nous a été confié et que nous sommes appelés à en prendre soin. Dans Luc 19, 13, on lit: Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit: Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. En Matthieu 25, 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, c'est ce mot-là, les fit valoir, et en gagna 5 autres. En Matthieu 25, 15, 19. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Et au verset 19, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Donc on voit bien que on le sait que Dieu nous a appelés, que Dieu nous a régénérés, qu'il nous a donné sa vie, il nous a donné tellement de choses. Une liste incroyable de bénédictions. Et peut-être des fois on peut oublier que nous sommes des administrateurs aussi et que nous sommes dans une démarche où on a des actions à faire, on a des choses à faire. Dieu attend de nous quelque chose. Donc on peut là faire une petite pause et prendre une minute et juste réfléchir. Quelles sont les capacités que Dieu m'a données? Quelle mine est-ce que j'ai reçue? Quel talent est-ce que j'ai reçu? Dans quel domaine est-ce que je suis experte ou j'ai facilité à fonctionner? C'est important pour nous d'avoir cette réflexion-là, parce que c'est ça qui va me permettre après de me dire, me poser encore et puis me dire comment est-ce que je peux faire multiplier cela? C'est vraiment chacune d'entre nous personnellement à ce devoir-là. On est appelé vraiment à multiplier quelque chose qu'on tient de valeureux, d'une grande valeur qu'on tient dans nos mains. Et en parcourant un peu la Bible, je me suis arrêtée sur certaines personnes à qui Dieu a confié des choses à administrer. Donc, on le voit avec Adam. Dieu lui confie le jardin d'Éden à garder et à entretenir. À Noé, il lui demande de construire l'arche. À Moïse, il lui demande de faire sortir son peuple Israël d'Égypte. À Josué, il lui demande d'emmener son peuple dans la terre promise. Ensuite, à Marie, il lui demande d'être le canal pour porter son fils et s'occuper de son éducation. C'était pas juste, Marie est tombée enceinte et a été le canal, elle a eu Jésus, c'est que elle a eu un rôle incroyable, vraiment, de veiller sur cet enfant-là. Marie et Joseph, bien sûr, on parle de Marie en tant que femme. Qui a veillé sur le fils jusqu'à ce qu'il rentre dans son appel public. Aux disciples, Jésus leur demande de propager l'évangile, à nous aussi qui sommes disciples. Et puis, il y a une femme, d'autres femmes dans la Bible, Tabitha par exemple, cette femme qu'on trouve dans Actes 9, on la voit qui tombe malade, ensuite elle meurt, et c'est Pierre qui prie. Et la ressuscite. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ce que les gens disaient d'elle quand elle est décédée. Au verset 39, acte 9, 39, toutes les femmes l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent, ils entourèrent Pierre. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait Tabitha quand elle était avec elle. On voit par exemple Esther, à qui Dieu demande de se tenir à la brèche pour Israël. Elle a hésité, mais elle a pu relever le défi et elle a fait ce que Dieu lui demandait. Marthe et Marie sont citées comme des femmes qui ont ouvert leur maison au Seigneur. Donc on voit souvent Jésus qui était chez elles. Puis il y en a plein d'autres dans la Bible. Qui ont marché, qui fonctionnaient pareil, ont ouvert leur maison, qui ont soutenu Jésus et ses disciples par leur bien. On voit Anne dans Luc 2, 37, qui passait tout simplement du temps dans la prière, c'est ce qui est dit d'elle. Il est dit qu'elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Voilà. C'est ce que Dieu lui a confié, donc elle était fidèle dedans et elle le faisait. Et je pensais à 2 femmes qui sont encore plus proches de nous, qui sont pas dans la Bible, et je pensais notamment à Maryse. Je sais pas si elle est là, mais Maryse, je me rappelle qu'elle tricotait tous ses petits chaussons. Et c'était pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'était son cœur. C'était pas juste faire des chaussons pour dire je sais faire des chaussons ou pour les distribuer autour, mais vraiment elle avait à cœur et voulait servir. Et elle était douée dans ce domaine-là, donc c'est ce qu'elle faisait. Et elle m'a déjà, quand moi j'étais en Thaïlande, elle m'a soutenue avec l'argent qui provenait de ces petits chaussons qu'elle tricotait. Ensuite, une deuxième femme, Rosemée, que vous connaissez toutes, une fois m'a envoyé une enveloppe avec 20 euros en Thaïlande. J'ai reçu l'enveloppe en Thaïlande. Avec un petit mot en disant, j'ai pas beaucoup, mais voilà, je t'envoie 20 euros. Vous pouvez imaginer, c'est extraordinaire, c'est pas juste l'argent. Déjà, l'argent, c'était 20 euros qu'elle envoie ici, c'est multiplié là-bas. Mais c'est le geste de dire qu'elle a pu prendre mon adresse en Thaïlande, je sais même pas où elle avait trouvé. Elle a dû demander à ma soeur, je suppose, et m'envoie cette petite carte qui a voyagé jusque là-bas. Voilà, c'est de ça que, quand Paul dit garde le beau dépôt, c'est de ça qu'il veut parler. C'est que nous avons reçu, et souvent on se sous-estime, on pense qu'on n'a rien entre les mains. Alors qu'il y a des petites choses comme ça que Dieu a placées entre nos mains, et des fois, on ne prend pas le temps aussi de réfléchir, parce que ça demande de la réflexion, de dire ok, voilà. Je pense que je sais rien faire, mais finalement, peut-être que je sais faire quelque chose. Alors, Seigneur, montre-moi. Et le temps de réaliser, on se retrouve à faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginées, qui sont peut-être pas si évidentes que ça, mais qui vont ressortir de nous et Dieu va nous montrer ce que nous avons entre les mains. Donc, en gros, nous sommes chacune dépositaire. Nous sommes comme ces banquiers, voilà, comme des banquières. Nous sommes dépositaires d'un bien, d'un don, d'une capacité. Quelque chose que Dieu nous a donné à faire fructifier. Et en général, souvent, c'est quelque chose qui est facile à nous à faire. On n'est pas là pour imiter les autres ou à se dire, tiens, maintenant, j'aimerais aller servir dans les associations. Et y aller à reculons, avec pleurs. C'est-à-dire, j'y arrive pas. Il y a des choses qu'on essaie de faire. Voilà, il y en a, ils vont pas passer tout leur temps dans la prière. Il y en a qui vont être plus doués, Dieu va les appeler à ça et être un support incroyable pour l'Église, pour les autres. Et puis, d'autres personnes, c'est juste le fait de pouvoir parler au téléphone des gens qui sont relationnels. Certains d'entre nous sont peut-être relationnels. On va avoir un contact facile. Et ce qu'on va dire va avoir un impact sur les autres. Rien que ça, c'est peut-être ce que Dieu nous a donné. Un sourire. Marlise. Chaque fois qu'on dit Marlise, tout le monde sourit. Donc rien que ça, voilà, Dieu lui a donné quelque chose de particulier qu'elle n'a pas besoin de se forcer à faire, mais qui va avoir un impact sur nous. Et c'est de ça que la Bible, c'est ce que la Bible nous dit ici. En Ecclésiaste 9, 10, tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Matthieu 25, 36, 39. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Matthieu 26, 11. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Voilà, ça c'est Jésus qui parle. Ensuite, garder ou administrer va demander une action. Donc, quand il dit garde le beau dépôt, c'est pas être admirative ou être contente parce que voilà, je sais que je suis capable de faire telle chose. Non, il faut le mettre en action. Et ça demande de bouger, ça demande d'avoir une stratégie, ça demande d'avoir un plan, ça demande de décider une décision aussi, de faire. Timothée est appelé à enseigner, à prêcher la parole. Nous, les femmes, on sait que, voilà, on n'est pas toutes, très peu d'entre nous vont être là à enseigner. Mais est-ce qu'on n'est pas appelé à la partager, à l'exprimer aussi? Peut-être qu'on ne va pas être derrière un pupitre. Mais le même rôle que Timothée a derrière un pupitre, nous, on a le même rôle dans la vie de tous les jours. On est appelé à propager la parole, à l'exprimer un peu partout, de toutes les manières possibles. Donc, c'est un rôle que Dieu nous donne. Et juste marquer là que nous sommes comme ces petites fourmis. Dieu nous donne les fourmis comme exemple, des petites fourmis actives, porteuses de bonnes nouvelles. Voilà, ça c'est notre rôle. Ensuite, en psaume 68,11, on lit: Le Seigneur donna la parole, grande fut la foule des femmes qui répondirent la bonne nouvelle. Est-ce que c'est pas beau comme verset? Proverbe 9,3, elle envoyait ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Donc ça, c'est la sagesse qui envoie ses servantes. Et bien sûr, garder, administrer va demander une part de souffrance aussi. Parce que quelque part, à partir du moment où je vais décider de fonctionner ou de faire ou d'agir, bah, ça va aller contre peut-être une volonté propre. Il faudra que j'investisse du temps, il faudra que j'investisse de l'argent s'il faut. Dieu va me demander de faire des choses au moment où le moins probable pour moi, où je le pense pas. Si j'avais fait mon programme, je ne le ferais pas ainsi. Mais Dieu va me le demander, donc je vais aller contre ma volonté et faire des choses. C'est une action vraiment. Et donc, ça va demander une part de souffrance. Quand Paul parle à Timothée, il utilise les termes soldat et sportif. Donc, on sait bien combien c'est facile et très agréable de faire du sport, se lever, s'habiller, partir, courir. Ça demande une sacrée énergie. Il y en a très peu qui arrivent à le faire. Donc voilà, c'est ce que Paul souligne à Timothée. Il faut qu'il soit comme un sportif. Il faut qu'il soit comme un soldat. Être un soldat, c'est pas facile non plus. C'est aller à la mort. C'est mourir à soi. C'est ne pas s'embarrasser des choses d'ici-bas. C'est le passer au deuxième plan. Et mettre Dieu en premier et mettre bah, ce don qu'on a reçu, ce que Dieu nous demande, le mettre en avant en premier. Il utilise aussi des termes comme ranimer, ranimer le don, s'appliquer à la lecture, mais sois un modèle et force-toi. Ou encore, toi demeure dans les choses que tu as apprises. Donc, le verbe demeurer. Donc voilà, une fois qu'on a dit tout ça, déjà l'idée de se dire que Dieu nous a appelés, on le sait, qu'il nous a confié des choses, nous qui sommes si petites, faibles, on pense qu'on... Combien de fois, je pense qu'il y a tellement de choses qui viennent devant moi, je dis, ah, j'y arriverai jamais, je pourrai pas. Mais Dieu nous a donné quelque chose qui s'appelle la foi. Je suis obligée de lui faire confiance, sinon c'est sûr, ça ne marchera pas, c'est pas pour moi-même. Donc je place ma foi en me disant, ok, si Dieu le dit, c'est vrai. Si Dieu dit qu'il m'a donné des talents, je ne sais pas combien, peut-être qu'il m'en a donné une douzaine, je ne sais pas. Mais je veux les découvrir et je vais y marcher. Mais surtout ici au verset 14, il dit, grâce au Saint-Esprit qui habite en nous. Et je crois que c'est ça la clé de Timothée. Dans ce passage de 2 Timothée 1,14, c'est grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié. Ouf! Donc, c'est pas à moi de vraiment, j'agis, mais à vrai dire, j'ai une puissance qui habite en moi. Dieu m'a donné le Saint-Esprit. Là, il le souligne, c'est le Saint-Esprit va nous aider à marcher dans ce qu'il nous demande. Le Saint-Esprit va nous aider à être de bons dépositaires. Le Saint-Esprit va nous aider à administrer correctement ce que Dieu nous demande, à préserver la parole en étant la lumière que nous sommes appelés à être. On va y arriver et on va porter des fruits. Des âmes vont être sauvées. Des gens autour de nous vont être délivrés. Beaucoup vont être bénis. Parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre en nous, et si on lui laisse vraiment la porte ouverte, il va se passer des choses extraordinaires. Donc Dieu ne nous laisse pas gérer seul, il gère avec nous. Il ne vient pas juste déposer et pas nous observer pour voir si on va y arriver. Non, il est à nos côtés et on va y arriver. Donc voilà, ça c'est ce à quoi ce que Dieu m'a mis sur le cœur, et j'y ai pensé tout à l'heure, je me suis dit, ok, garde le bon dépôt, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que je peux faire? Et on va toutes prier vraiment que Dieu nous aide à fonctionner, à être des porteuses de cette bonne nouvelle, des porteuses de cette parole pour qu'elle ne soit pas altérée, qu'on soit fidèle dans toutes ces choses que Dieu nous a données. Donc on va juste terminer là, en se rappelant que nous avons un beau dépôt qui réside en nous, quelque chose d'une valeur inestimable, la Bible dit. Nous, on a du mal. Mais Dieu parle de plus que l'or, plus que l'argent, plus que les pierres précieuses. C'est réel et c'était enfoui en nous. Donc, on l'a déjà. Deuxième chose, nous sommes appelés à aller à contre-courant du siècle dans lequel nous vivons. Voilà, c'est comme ça que nous préservons la parole. Les gens pensent autrement autour de nous. Ce n'est pas notre problème. Nous, on continue dans ce qu'on sait être vrai, qu'on a reçu, qui est la vérité, la parole de Dieu, et on la préserve ainsi. Dieu nous a confié un appel unique. Quel est cet appel-là? Voilà, on va juste terminer là et garder cette réflexion. Alors, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as confié? Que je puisse en prendre soin.